Hey, oh, à vous les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Il distribue des repas tous les dimanches soirs sur la place du marché couvert. L'association Maraud des Solidarités Bourg-en-Bresse a été créée fin 2017. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils choisi de se mobiliser? Des bénévoles étaient dans nos studios. Retrouvez à travers le pont la série de reportages au cœur de la rénovation urbaine du pont des Chèvres à la réalisation de jeunes reporters. Ils ont rencontré Alain Bontemps, maire adjoint en charge de la politique de la ville, de la démocratie locale et de la jeunesse. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. Un élan de solidarité de quelques amis. C'est le point de départ de l'association Maraud des Solidarités Bourg-en-Bresse, une mobilisation née après l'arrivée à Bourg de migrants passés par le bidonville de Calais. Des bénévoles étaient dans nos studios. Mourad Ameriou est l'un des membres actifs de l'association depuis sa création fin 2017, tout comme Kativa, travailleur social dans une association burgienne. Choukri Atafi est le président de Maraud des Solidarités Bourg-en-Bresse. Il revient sur la naissance de leur engagement.
Je me suis rendu à Calais avec une association. Ça m'a interpellé. Sont passées quelques semaines, quelques mois. Comme je suis originaire de Bourg, j'avais une expérience aussi associative, notamment dans la distribution et de repas chauds. Et j'en ai profité avec Ramzi Jandoubi, qui est vice-président de l'association et qui s'occupe particulièrement des migrants. On a mené une réflexion pour voir ce qu'on pouvait faire, où est-ce qu'on pouvait être. Ce qui se faisait déjà, ce qui existait. Et aujourd'hui, on s'est positionné sur du soutien à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur et particulièrement à la distribution de repas chauds.
Qui sont les bénévoles de l'association Maraud des Solidarités?
La particularité, c'est que les poumons de l'association, ça reste la jeunesse.
Et c'est des personnes qui vous ont contacté spontanément pour rejoindre l'association?
Oui, donc c'est greffé autour de nous pas mal de personnes, de quartiers, particulièrement dans la Grande Ressouze, parce qu'on est issus de quartiers sur Bourg-en-Bresse. Et donc du coup, automatiquement, sur cette action humaine, a fédéré pas mal de monde. Et aujourd'hui, on se retrouve justement avec une trentaine, quarantaine de bénévoles.
Donc vous avez parlé de la Croix-Rouge, des Restos du Cœur, il y a aussi la Banque Alimentaire. Pourquoi c'était nécessaire de créer une autre association?
Parce qu'on pense que de toute manière on n'est jamais trop pour aider les gens avant tout, et que malheureusement les associations existantes ne suffisent pas à la précarité des gens qu'on a maintenant sur Bourg et sur les alentours. Donc on s'est dit pourquoi pas travailler en collaboration, avec la Banque Alimentaire, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge.
Donc vous êtes en lien avec toutes ces associations?
Exactement. Donc on n'est pas là pour faire de la concurrence, mais on est là pour travailler ensemble dans le but d'aider au mieux les usagers.
Qui sont les personnes qui viennent aux distributions?
Alors on a plusieurs profils, des familles où un ou deux, des parents travaillent ou aucun, donc les revenus sont plutôt bas pour une famille. On a des SDF, on a des étudiants, on a un public vraiment très varié, qui est aussi varié que, tout à l'heure vous posiez la question, qui sont les bénévoles à l'association? Je voulais revenir un petit peu là-dessus, je voulais insister sur le fait que les bénévoles sont aussi multiculturels, multiprofessionnels, parce que on a eu quelques réflexions au départ qui nous sont un peu...
Quel genre de réflexion?
Oh, qu'on est une association un petit peu communautaire, un petit peu culturelle, un petit peu islamiste. Donc voilà, moi je voulais le ressortir aujourd'hui parce que nos bénévoles sont de toutes les cultures, je le répète, de tous les cultes aussi, de toutes les catégories socio-professionnelles. Donc on voulait vraiment insister là-dessus en disant n'ayez pas peur, on est là pour vous aider et non pas pour autre chose, quoi.
Alors, on paraît un petit peu basané, c'est vrai, avec un peu de barbe.
Non,
mais,
pas trop, moi.
Des fois, voilà. Mais particulièrement au niveau des bénéficiaires, c'est vraiment, on est vraiment dans un état d'esprit où on accueille, On accueille vraiment tout type de public. Et aujourd'hui, notre vacation, c'est aussi... On s'est dit qu'aujourd'hui, la fin n'a pas de nationalité, n'a pas de carte ou de laissez-passer. Et on aide des personnes qui vont même très bien. Et voilà, qui, sur un mois, des fois, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir un imprévu. Ils se retrouvent à pas manger correctement. Donc, on a aussi des étudiants qui sont à l'école toute la semaine et que voilà, le week-end, c'est un peu plus difficile. Donc, non, vraiment, on est dans un état d'esprit vraiment de solidarité humaine et surtout une participation sociale.
Combien de personnes sont venues aux distributions de repas depuis que vous avez lancé l'association ?
Donc, on a démarré fin octobre. On ne vous cache pas que la première distribution, on l'a plutôt mangé entre nous, bénévoles. Ouais. L'association n'étant pas encore connue, donc les bénéficiaires étaient peu nombreux. 5-6, je crois. Et puis là, dernière distribution, on était plus de 40. Enfin, les usagers étaient plus de 40 personnes. Donc, du bouche à oreille, on commence à faire un peu de communication à travers les associations, à travers les commerces aussi. Enfin, différentes façons de communication. Et puis, donc, il y a de plus en plus de bénéficiaires qui viennent nous voir le dimanche soir à partir de 18h30.
Je voudrais ajouter qu'en plus des repas chauds que nous servons, on a mis en place dernièrement un stand de vêtements. Donc, on invite également tous les donateurs à venir nous rejoindre le dimanche soir et à pouvoir nous remettre les vêtements dont ils ne se serviraient plus. Les besoins sont là aussi importants. Donc, voilà.
Qui peut bénéficier des distributions de repas ? Puisqu'on sait que, par exemple, pour les Restos du Cœur, c'est par rapport aux revenus. Qu'en est-il pour l'association Maraude et Solidarité ?
La porte est ouverte à toute personne qui sont isolée, qui sont avoir besoin d'un soutien et même d'un colis alimentaire ou ne serait-ce qu'un repas tous les mois. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions. Pas de restrictions, pas de conditions de ressources. Les gens savent qu'on est là et ils peuvent venir comme ils veulent, quand ils veulent.
C'est libre et inconditionnel.
Et voilà, vous voulez garder toujours comme ça ou à un moment vous voulez que ce soit plus cadré au niveau des conditions pour bénéficier des repas ?
Non, du tout, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on s'installe dans un état d'esprit où tout le monde peut tomber du jour au lendemain. On s'en est rendu compte, on a des gens autour de nous. Nous-mêmes, on n'oublie pas d'où on vient, donc aujourd'hui ça commence à être très dur, la vie est très dure. Et on n'est pas à l'abri de la précarité, on n'est pas à l'abri de... On a rencontré à la distribution des personnes qui allaient très très bien, qui avaient des hauts postes, et du jour au lendemain, ils se retrouvent en galère ou des problématiques quelconques. Et, c'est pour ça que la particularité de l'association, c'est aussi être présent, être à l'écoute, avoir un moment où on peut discuter avec des personnes... Alors ça peut être, vous savez, quand on rencontre des personnes, des jeunes issus de quartier, qu'il y a des jeunes mémés qui viennent et qui s'arrêtent et qu'ils n'ont jamais vu ces jeunes-là en train de donner, de distribuer, ne serait-ce juste pour discuter, pour parler. Je sais que j'ai rencontré énormément de monde qui se sont intéressés à nous et aujourd'hui ça montre aussi notre image des petits jeunes de banlieue.
On pense que de toute manière, les gens qui viennent nous voir ne sont pas là pour abuser, pour profiter, donc c'est pour ça que notre politique à nous est on accueille toute personne qui se présente le dimanche soir à l'association Maraude et Solidarité.
Tout ce que vous donnez, l'aide, c'est entièrement des dons.
Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit de faire participer, en termes de solidarité, les usagers qui sont dans nos quartiers, donc notamment nos mamans, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, venir donner un coup de main... sur la distrib, voilà, elle prépare les repas, donc on a un calendrier où on fait participer toutes les familles qui s'inscrivent et qui veulent préparer la soupe. Donc bon, la particularité de la soupe, c'est la harira, la soupe marocaine, donc on peut l'appeler la chorba ou la soupe. Et donc du coup, ça reste un plat qui est très... très fraternel, chaud, et où les personnes, ça ne demande pas énormément d'argent pour faire une soupe. Pour 150 personnes, une harira, on en a pour 38 euros.
Vous n'avez pas de subvention pour l'instant ?
Non, on n'a pas de subvention aujourd'hui.
Oui, je vais rajouter juste un truc, oui, c'est vraiment des dons, donc comme disait Choukri, des dons des familles, des usagers, mais on démarche aussi quelques commerces sur Bourg-en-Bresse et les alentours. Notamment les boulangeries, pour pouvoir avoir du pain le soir, sur les marchés, du samedi matin. On récupère aussi des fruits et légumes en général. des bouchers aussi qui nous font don de viande pour pouvoir préparer les repas chauds du dimanche soir. Donc oui, en effet, pour l'instant, il n'y a que des dons. C'est vraiment des dons. C'est une solidarité vraiment impressionnante, quoi.
Vous avez eu la visite de l'adjointe déléguée de l'action sociale et du logement et de la responsable du centre communal d'action sociale de Bourg-en-Bresse. Qu'attendez-vous de ces dernières et plus généralement des élus ?
On a fait une demande d'occupation du domaine public. Bon, je connaissais M. Jean-François Debin parce que je suis athlète de haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, on a eu cette demande d'occupation du domaine public. On a été pris au sérieux. Le soutien avec M. Debin.
Donc, le maire de Bourg-en-Bresse.
Le maire de Bourg-en-Bresse. Sauf que, bon, après, avec les élus, c'était un petit peu plus compliqué. On a
Pourquoi
eu la visite.
Pourquoi c'était plus compliqué ?
Bon, on avait besoin justement d'un certain soutien, notamment cruel, d'avoir des locaux, au moins juste un lieu de rencontre où on peut structurer notre association, monter des projets, monter des dossiers de subvention, etc., se réunir. Quand on a demandé justement, on a fait une demande via Bourg Habitat, on a eu un refus de cette demande. Et c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu quand même abandonné sur cette action. On comptait beaucoup sur la mairie de Bourg-en-Bresse via Bourg Habitat. Il y a beaucoup de particularités. Ils ont besoin d'avoir un peu de recul. On est une nouvelle association. On est un peu basané des fois. Il y a des bruits qui courent derrière, etc. Mais je pense que voilà, le maire est quand même assez intelligent pour faire quand même la part des choses. Et il a pris position, notamment à plusieurs fois quand on l'a rencontré. Voilà, il nous soutient. Aujourd'hui, on est sur le terrain. On est dans un état d'esprit. Et voilà, donc après, les démarches sont faites, on a fait des demandes, voilà, on attend des retours. On espère qu'ils vont nous entendre aujourd'hui sur Radio B.
Comment souhaitez-vous faire évoluer l'association ?
Si tout le monde jouait le jeu et remplit son rôle, notre association n'a pas vocation à durer comme toutes les autres associations. Malheureusement, lorsque les Restos du Cœur ont été créés, on n'imaginait pas que tant d'années après, elle serait encore en place avec un rôle.
Trentaine d'années, ils sont toujours là. Oui.
Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de rester très présent sur Bourg. Mais évidemment, on invite toutes les personnes en responsabilité importante aujourd'hui à prendre les leurs et à venir aider des associations comme la nôtre. Donc voilà, on va encore une fois articuler, organiser notre association de la meilleure des façons. On invite également toutes les personnes qui voudraient nous aider à venir nous rejoindre le dimanche. On a une page Facebook, on a une page Instagram également. Nous sommes sur Twitter et vous pourrez nous retrouver assez facilement, Maraude et Solidarité.
Kativa Mourad Amerio et Choukri Atafi, membre actif de l'association Maraude et Solidarité Bourg-en-Bresse. Cette dernière veut distribuer des repas été comme hiver sur la place du marché couvert. Pour commencer, ils ont demandé à occuper le domaine public jusqu'au 31 mars. Et parmi leurs projets, il y a cette campagne de récolte portée par des jeunes. Ils devraient intervenir dans des écoles pour expliquer leurs actions aux élèves.
Radio B, Radio B.
On a des contraintes qui sont des contraintes financières, hein, puisque pour l'instant, on est en train de demander les financements. On n'a pas encore obtenu tous les financements. On espère avoir des financements importants de la région, de l'État, de la rénovation urbaine. Et surtout, il y a beaucoup d'aménagements qui concernent les logements. Donc, Bourg Habitat a aussi son mot à dire. Et la ville, nous, on est en relation avec Bourg Habitat, on travaille avec eux, mais ce n'est pas nous qui gérons les financements de Bourg Habitat. Donc, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver, en sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la rénovation urbaine de la Ressource de l'autre côté de l'avenue Maginot, hein, eh bien, ça a duré 10 ans. Hein. Donc, on va faire la concertation, on va dire, au fil de l'eau. Quand on va décider quelque chose, quand on va voir un peu, en fonction de ce que vous avez dit, ce qu'on peut faire et tout, on le fait au fil de l'eau.
17h29 sur Radio B. Restez à l'écoute. L'interview d'Alain Bontemps, adjoint au maire en charge de la politique de la ville, de la démocratie locale et de la jeunesse, c'est dans quelques minutes.
I saw your tear fall.
Rail sur Radio B avec Song for You. Son nouvel album Blood vient juste de sortir. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
À travers le pont. Reportage et interview
au pont des chèvres
avec Adam,
Amin,
Hakim,
Hilal,
Gurta
et Moussin.
Je m'appelle Alain Bontemps, je suis maire adjoint et je suis en charge de la politique de la ville, de la jeunesse et de la démocratie locale. Je m'occupe des conseils citoyens sur la ville.
Quel est votre rôle ?
Alors j'en ai plusieurs, hein. J'en ai un qui me permet de travailler dans les quartiers politiques de la ville, d'aller sur la Grande Ressouze et puis sur les Dîmes et puis Alphonse Daudet, les quartiers politiques de la ville, et Terrancouleur. Et puis, au niveau de la jeunesse, je m'occupe du réseau 12-15 et je m'occupe aussi de tout ce qui concerne les relations qu'il peut y avoir avec les jeunes.
La démocratie locale, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la démocratie locale, c'est simplement local, ça veut dire que ça se passe sur Bourg. Quand c'est encore plus local, ça peut se passer sur un quartier, comme par exemple le quartier du Pont des Chèvres. Mais on a aussi des opérations, des habitants qui nous interpellent, nous les élus, qui nous disent dans un quartier, quelque chose qui ne va pas très bien, la voirie n'est pas en très bon état, on a besoin de mettre un jeu pour les enfants. Donc nous, les élus, on s'occupe de répondre aux questions de proximité des habitants. Comme vous aujourd'hui un peu, hein. Donc vous nous interpellez, on répond et on essaie de trouver des solutions à vos demandes.
Et donc, quelles sont vos missions ?
Mes missions, les missions, c'est justement d'animer un peu tout ce qui se passe autour de la démocratie locale. Par exemple, on recrute les nouveaux conseillers citoyens. Donc, à partir de 16 ans, on peut être un conseiller citoyen. Les conseillers citoyens se réunissent par quartier pour voir ce qu'il y a à faire dans le quartier, etc. Donc ça, c'est la première mission, c'est mettre en relation les habitants avec les élus ou avec les services de la ville. Et puis, ma deuxième mission par rapport à la jeunesse, c'est un peu coordonner tout ce qui se passe avec Jérôme Comte en particulier, qui est le coordonnateur jeunesse. Et donc, on essaie d'avoir une politique pour les jeunes. Et ma troisième mission politique de la ville, c'est travailler sur des projets qui vont se dérouler sur les territoires politiques de la ville, et notamment un projet très important de rénovation urbaine sur le quartier du Pont des Chèvres.
On parle beaucoup des habitants dans ce projet de rénovation. Comment impliquez-vous les habitants ?
Alors, on implique les habitants déjà par les conseils citoyens, hein, puisqu'on a un conseil citoyen qui est dans chaque quartier, et il y en a un propre au quartier de la Ressouze. Donc il y a des habitants qui viennent travailler et qui essayent d'aménager un peu tout ce qui se passe, notamment l'aménagement du square Louis Parent avec les jeux qui ont été installés. C'est les conseillers citoyens qui ont eu le projet, qui l'ont monté. On a pu le financer, on les a aidés, on a participé, on les a écoutés. C'est plutôt eux qui nous ont dit un peu comment il fallait faire. Sur le quartier du Pont des Chèvres, on a ciblé un peu plus les choses. On a déjà fait des réunions pour que vous puissiez nous dire tout ce que vous avez à nous dire avant que les aménagements se fassent, hein, parce que c'est des aménagements importants avec une somme importante. Donc tous les habitants peuvent jouer un rôle. Donc autant se mettre tous autour de la table puis de voir un peu comment on peut faire les choses les uns avec les autres ensemble.
Il y a eu deux World Café et une réunion avec le maire. Comment les habitants ont pu être informés de ces réunions ?
Les habitants sont informés directement. Quelquefois, on fait une information très ciblée, quartier, et on met des papiers dans les boîtes aux lettres en disant aux gens, venez là. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des personnes relais. Alors, on peut avoir le réseau 12-15, c'est un réseau qui permet d'aller chercher des jeunes, hein. Mais on peut avoir le centre social, on peut avoir l'école, on peut avoir le centre de loisirs. Toutes les personnes qui travaillent ou qui animent et qui ont une fonction dans le quartier sont directement sollicitées. Et bien sûr que les informations, c'est un gros problème l'information. Même pour un élu, on a envie de réunir les gens. Et puis on fait plein de... Je ne sais pas si vous avez vu ceci sur la ville, par exemple. Eh bien, il y a des gens que je rencontre, parce qu'on va distribuer dans les écoles, qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Donc, l'information, on a envie de la faire, mais elle passe plus ou moins bien, quoi.
Nous, on a remarqué que peu d'habitants du quartier étaient présents. Comment pensez-vous pouvoir atteindre tous les habitants ?
Nous, on est prêts à avoir tous les habitants. Je pense que vous avez peut-être un rôle à jouer en disant... aux personnes, le projet va démarrer, venez, ça peut être intéressant, vous avez votre mot à dire. Voilà, c'est nous, on a été assez déçus, hein, du peu de personnes qui étaient là, mais on avait en plusieurs étapes, comme ça on a eu des personnes qui sont quand même venues et qui ont donné leur avis. Hein. Donc après, on ne peut pas obliger les gens à aller les chercher, les prendre par l'oreille en disant « tu viens à la concertation ». Ça ne marche pas, ça. Hein.
On a l'impression que les adjudes dans le quartier ont peu d'informations par rapport aux travaux. Comment est-ce que vous informez les habitants à propos de la rénovation urbaine ?
Les travaux de la rénovation urbaine, ils ont commencé uniquement sur l'aménagement du boulevard Édouard Herriot. Donc il y a eu une réunion uniquement avec les personnes qui habitent d'un côté et de l'autre du boulevard, plutôt de l'autre côté, hein, du côté impair, je crois. Hein. Ouais. Et par contre, de l'autre côté, il y avait juste la mosquée qui n'existe plus, il y a la nouvelle mosquée. Donc les habitants ne sont pas directement impactés par le boulevard. Donc c'est plutôt quand on a une rénovation de boulevard ou de rue, on invite ce qu'on appelle les riverains, c'est-à-dire ceux qui habitent vraiment sur le chantier, hein. La tour du Pont des Chèvres et puis les bâtiments qui sont le long du boulevard Édouard Herriot. Donc on fait une information dans les boîtes aux lettres. Là.
Vous nous avez dit que vous prenez en compte toutes les demandes de toutes les personnes. Dans le quartier, il y a différentes populations, certaines qui sont propriétaires, d'autres locataires, certaines qui habitent dans des appartements, d'autres dans des maisons. Comment allez-vous prendre en compte leurs demandes ?
Ça, c'est une très très bonne question parce que c'est compliqué. Parce que moi, je me souviens d'un aménagement d'une rue qu'on avait fait à côté d'un collège. Et on avait, dans un premier temps, passé la parole aux habitants du quartier. On avait fait toutes les maisons. Mais c'était à côté d'un collège. Donc moi, après, j'ai fait une autre information au niveau du collège. Et on s'est rendu compte que les demandes étaient complètement contradictoires entre ce que demandaient les jeunes du collège et ce que voulaient les habitants du quartier. Les habitants du quartier, ils ne voulaient pas que les jeunes passent devant chez eux. Donc ils ont dit, on ne va pas mettre de rue piétonne. Puisque les jeunes venaient au collège en passant devant chez eux, ils n'avaient pas envie de les voir. Donc ils avaient mis. Et donc nous, on a fait le forcing. Et après, on doit choisir quel est l'intérêt. D'après moi, la sécurité des jeunes, c'est plus important que la mauvaise humeur de certaines personnes qui n'ont pas envie de voir les jeunes. Donc on a choisi de faire le passage doux pour que les jeunes puissent aller en toute sécurité au collège. On est obligé d'arbitrer quelquefois quand on a des demandes contradictoires. On ne peut pas dire oui à tout le monde, hein, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Parce que après, il faut bien vivre ensemble et puis essayer de construire un projet qui va plaire à tout le monde, en sachant que vous en aurez toujours qui ne seront pas contents. Hein. Ça, je suis sûr.
Jusqu'où la parole des habitants sera entendue et prise en compte ?
Alors, la parole des habitants, pour l'instant, on la recueille. On essaye de voir ce qu'on peut faire avec cette parole, de manière à pouvoir aménager, en sachant qu'on a des contraintes qui sont des contraintes financières, hein, puisque pour l'instant, on est en train de demander les financements. On n'a pas encore obtenu tous les financements. On espère avoir des financements importants de la région, de l'État, de la rénovation urbaine. Et surtout, il y a beaucoup d'aménagements qui concernent les logements. Donc, Bourque Habitat a aussi son mot à dire. Et la ville, nous, on est en relation avec Bourque Habitat, on travaille avec eux, mais ce n'est pas nous qui gérons les financements de Bourque Habitat. Donc, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver, en sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la rénovation urbaine de la Ressource de l'autre côté de l'avenue Maginot, hein, eh bien, ça a duré 10 ans. Hein. Donc, on va faire la concertation, on va dire, au fil de l'eau. Quand on va décider quelque chose, quand on va voir un peu, en fonction de ce que vous avez dit, ce qu'on peut faire et tout, on le fait au fil de l'eau.
Quel sera l'impact de la rénovation urbaine sur le quotidien des habitants ?
L'impact, il va être double. Il va être que les appartements vont probablement être mieux, vont être rénovés. Donc les factures de chauffage vont diminuer parce qu'il va y avoir une rénovation un peu thermique. Hein, quand on va faire du neuf, donc on est obligé de faire des choses. Il va y avoir une rénovation importante sur les aires de jeu, puisqu'on va travailler sur les rues autour des immeubles et puis sur les aires de jeu qu'on va aménager. Donc là, il y aura un gros travail de concertation à faire avec les grands et avec les petits, hein, parce que moi, j'ai déjà aménagé une aire de jeu avec des jeunes de l'école qui donnaient leur avis sur les jeux qu'on mettait en place. Hein. Donc il y a tout un travail. Et puis, il y a les passages, il y a les rues qui vont être créées, il va y avoir des tas de choses. Mais systématiquement, quand on aura décidé quelque chose ou quand on aura envie de le faire, on concertera avec les habitants.
On sait que certains habitants de la Ressource ont dû déménager suite aux rénovations parce que les loyers ont augmenté. Se passera-t-il la même chose dans le quartier du Pont des Chèvres ?
Je ne peux pas vous répondre, mais je ne sais pas quel va être l'impact financier parce que l'impact financier, il peut être important, mais les bénéfices qu'on peut avoir en payant moins de factures d'électricité ou de chauffage, ça peut s'équilibrer. Mais c'est Bourque Habitat qui décide des loyers, c'est pas la ville. mais on espère que quand même, il n'y aura pas trop d'impact. Mais je ne peux pas vous répondre là, parce que je ne sais pas encore, ça n'a pas été calculé, il faut faire un calcul d'investissement et tout, c'est un peu complexe. Hein. Et vous avez raison de dire ça, qu'il y en a qui sont partis, puis il y en a qui ont trouvé d'autres appartements mieux à l'extérieur aussi. Hein. Donc il n'y a pas que des gens qui sont partis parce qu'il y avait une hausse des loyers, mais c'est vrai que c'est important ce que la question que vous posez.
Merci aux jeunes reporters du Pont des Chèvres et à Élodie. Retrouvez régulièrement dans votre magazine leurs interviews et leurs reportages. Merci à Pauline à la réalisation et à vous pour votre écoute. Restez sur le 90 FM à 18h, place à Yapak le 8 mars. Vous entendrez Cynthia, jeune féministe, et Christine Piot, directrice du CIDFF. L'association informe les femmes et les familles sur leurs droits. À 20h, poursuivez la soirée en musique avec Captain, c'est Ping Pong Radio Show jusqu'à 21h. Bonne soirée sur Radio B. Retrouvez à vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.